Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du lundi 4 novembre 2024. Donald Trump et Kamala Harris s'affrontent lundi dans d'ultime meeting électoraux à la veille d'un vote aux enjeux critiques pour les États et le reste du monde. Nous retrouverons à Houston Nanita Lani pour un état des lieux. La communauté malienne de Philadelphie, dans l'état pivot de Pennsylvanie, se prépare également à voter demain. Nous retrouverons Koulibaly Atino dans un instant. Le nouveau président du Botswana, Duma Boko, a pris fonction ce lundi. Le Tchad menace de se retirer de la force multinationale de sécurité opérant dans le bassin du lac Tchad. Ne manquez pas notre page sport. Ce sera en fin de journal. A tout à l'heure.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Présidentielle américaine, J-1, l'ancien président républicain a multiplié les déplacements ce lundi, se rendant notamment dans 3 des 7 États décisifs, Raleigh en Caroline du Nord, Pittsburgh en Pennsylvanie et Grand Rapids dans le Michigan. Kamala Harris a prévu, elle, de sillonner la Pennsylvanie, à Allentown notamment, considérée comme l'une des zones les plus indécises de l'État, puis à Pittsburgh et Philadelphie. Notre reporter Yakuba Ouedraogo est à côté de la présidence convoitée, la Maison-Blanche à Washington. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Alors les sondages sont serrés entre les deux candidats. Le spectre du 6 janvier 2021 plane et les autorités ont pris des mesures pour parer à toute éventualité. Yakuba.
Effectivement, Jean-Roger, je suis juste à côté de cette Maison Blanche, convoitée notamment par Kamala Harris et Donald Trump dans la capitale fédérale. Ici à Washington DC, on le voit, les barrières métalliques sont érigées autour de la Maison Blanche. Impossible, comme à l'accoutumée, pour les touristes de se rapprocher de cette enceinte pour les prises de vue. Les forces de l'ordre veillent au grain. Il n'y a pas que la Maison-Blanche qui est sous haute surveillance. Le Capitole ou le siège du Congrès et d'autres sites sensibles sont protégés par des barrières métalliques. Vous l'avez dit, le spectre du 6 janvier 2021 plane. À cette date-là, Donald Trump, qui n'avait jamais reconnu sa défaite à la présidentielle de 2020, a vu ses partisans prendre d'assaut le Capitole pour empêcher la certification des résultats par le Congrès. Plus jamais ça, avaient dit les autorités qui ont pris des mesures conséquentes cette fois-ci pour éviter que cela se reproduise. Et justement, ces mesures affectent le quotidien de certains riverains de la Maison-Blanche. J'ai rencontré ici sur place Ray, on l'écoute.
Pour moi, les élections représentent un nouveau changement en fonction des nouveaux présidents.
Your name? My name is Dante Best. Yeah, when you guys think like security anywhere.
Je m'appelle like, Dante Best.
Have access to the White House, and it's not only here, even if in the capital. Are you scared about the outcome of this election?
Am I scared about the outcome of this election?
The result of this
election. Absolutely, I think it's very important because.
Je pense que c'est très important.
You have
un camp qui isole. Et divise l'Amérique, celui de Donald Trump. Et vous avez dans l'autre camp quelqu'un qui n'est pas qui est prétend être. Donc je pense que tout cela est effrayant. Oui, je suis d'accord que tout cela est effrayant. Je crains l'immigration. Et qui sera le prochain président? Vous me comprenez?
Yep.
Oui.
So about the security, we saw like last time.
À propos de la sécurité, nous avons vu la dernière fois le 6 janvier 2021. Pensez-vous qu'un tel événement puisse se reproduire?
Yeah, with the riot.
Avec les émeutes? Oui. Oui.
Absolument.
Car s'il n'est pas élu, et s'il n'est pas réélu, il pourrait encore déclencher des émeutes. Vous comprenez?
It's very scary. Very scary.
C'est très effrayant. En particulier pour moi, parce que je vis près d'ici. Tout ceci est très effrayant, très nouveau pour moi. Est-ce que cela affecte votre vie quotidienne? Plus je le vois dans les informations, plus cela devient réel, cela devient la réalité, et donc cela affecte ma vie. Nous en parlions d'ailleurs ce matin au réveil, nous nous disions, le jour approche, donc oui, nous sommes très nerveux. Absolument.
Yakuba, ailleurs, la sécurité a aussi été renforcée pour ces élections.
Tout à fait, Jean-Roger. Dans l'État de Washington et celui du Nevada, par exemple, les autorités ont mobilisé les réservistes de la garde nationale à titre préventif. En Géorgie, des agents électoraux sont équipés d'un dispositif à bouton d'alarme permettant d'avertir les autorités en cas de danger. Dans d'autres États, certains bureaux de vote sont surveillés par des drones ou même des tireurs d'élite perchés sur les toits. Près de 80 millions d'Américains, dont la candidate démocrate Kamala Harris, ont déjà voté par anticipation. Son rival Donald Trump devrait lui voter en personne demain mardi, le jour de l'élection donc, près de sa résidence en Floride. Les deux candidats, vous l'avez dit, poursuivent leur campagne dans des États pivots ce lundi, Jean-Roger.
Merci Yacouba Ouedraogo qui nous appelait de la Maison Blanche. Les voix des Américains issus de la diaspora africaine à Houston dans le Texas sont de plus en plus importantes dans les élections des États-Unis alors qu'ils veulent contribuer à façonner l'avenir de leur nouvelle patrie. Pour beaucoup comme Deli Blessing d'origine congolaise, ce vote est l'opportunité de défendre des valeurs comme la justice économique. Retrouvons en direct de Houston Nanit Talani. Bonsoir Nanit. Bonsoir, Nanit.
Oui, Jean-Roger, de nombreux immigrants africains vivant dans la ville texane de Houston participent activement au processus électoral en cours, motivés par des enjeux cruciaux qui touchent directement leur quotidien. Tel Blessing, une jeune mère de trois enfants qui vote pour la première fois cette année en tant que citoyenne américaine, cite l'économie et l'inflation comme ses principales préoccupations. Ces deux enjeux affectent durement les familles et les travailleurs de la classe moyenne, rendant le coût de la vie de plus en plus difficile à supporter pour de nombreux ménages, y compris pour les immigrants. Écoutons Del Blessing.
Pour moi, les élections représentent un nouveau changement en fonction des nouveaux présidents qui sera notre président actuel. Alors, le président en question, il aura la capacité d'essayer un peu de gérer l'économie. Pourquoi? Parce que tout est devenu cher. La maison est devenue chère, il n'y a pas de boulot, on ne travaille pas. Et il y a d'autres personnes qui travaillent, qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent. Et puis aussi, la maison est devenue trop chère, les appartements, le gaz, à manger. Comment tout ce qu'on nous paye, ça part dans les villes. C'est la raison pour laquelle nous voulons.
Pour Del Blessing, il est crucial que les élus s'engagent à améliorer les conditions de vie de tous, en particulier pour ceux qui travaillent dur pour subvenir aux besoins de leur famille. En attendant le jour J du vote, demain mardi, et le résultat du vote, la jeune femme et bien d'autres, le prochain président des États-Unis, prendra en compte leurs préoccupations et aussi pour les aider à supporter des offres également plutôt pour une économie stable et des politiques inclusives. Salut Calani, Houston, Texas, pour VOA Afrique.
Voilà, elles sont un peu élaborées, toutes nos excuses. Et c'est donc demain mardi que les Américains se rendent aux urnes officiellement pour les élections présidentielles, parlementaires et locales. La ville de Philadelphie, dans l'État de Pennsylvanie, abrite une forte communauté malienne ici aux États-Unis. Notre envoyé spécial, George Attino, a rencontré quelques-uns d'entre eux.
Chaque semaine, la famille Diabaté devient le point de rencontre de la communauté malienne à Philadelphie. Ici, on discute autour d'un bon plat de riz au gras, accompagné d'un bon verre de thé. Aujourd'hui, les discussions habituelles sur la situation au Mali laissent place aux élections présidentielles américaines. Bamoukou Diallo, responsable d'un centre de formation pour les immigrants d'Afrique et d'Amérique latine, se dit inquiet au sujet de cette élection.
Dans notre centre, on a des immigrés, donc ces gens-là aussi, ils ont peur. Bon, on ne sait pas comment ça va aller. C'est un peu compliqué.
Entre deux gorgées de thé à la menthe, Mohamed Sanou souligne l'importance de cette élection présidentielle. Il appelle la communauté à se mobiliser pour assurer une meilleure représentation de la diaspora ouest-africaine dans la politique américaine.
Nous, les Africains présents ici aux États-Unis, nous avons compris que nous devons être unis. Cela nous aidera à défendre nos intérêts au sein des plus hautes instances de l'État.
Un appel qui a de plus en plus d'écho ici à Philadelphie, afin de prendre exemple sur d'autres communautés africaines pour avoir enfin des représentants, et cela passera par une meilleure organisation. Georges Atineau à Philadelphie pour la VOA Afrique.
Merci Georges. De nombreux États américains pratiquent le vote anticipé en personne jusqu'à la veille des élections. La Virginie offre cette formule plus de 40 jours avant le jour du scrutin, comme l'Illinois, le Minnesota, le Mississippi, le South Dakota et le Vermont. 4 États ne proposent pas de vote anticipé en personne. Il s'agit de l'Alabama, du New Hampshire, de l'Oregon et de la Pennsylvanie. La Virginie a refermé ses bureaux de vote par anticipation ce week-end après 45 jours d'ouverture. Visite guidée d'un centre de vote dans cet État du Commonwealth avec Nathalie Barge.
Les environs de la plupart des bureaux de vote en Virginie sont généralement parsemés de petits panneaux électoraux partisans, comme ici au bureau électoral principal du comté de Prince William à Manassas, qui permet le vote anticipé depuis le 20 septembre. Eric Olson, directeur des élections pour ce comté, est l'un des artisans du vote anticipé conçu pour réduire les files d'attente le jour du scrutin.
Le vote anticipé est un processus qui se déroule plusieurs semaines avant l'élection dans différents endroits du comté. Nous avons environ 100 bureaux. Je pense que jusqu'ici, nous avons atteint 100 000 personnes qui ont voté par anticipation ou par correspondance, et nous aurons probablement un nombre similaire le jour du scrutin. Le nombre d'électeurs présents sera également le même.
Depuis la présidentielle de 2020, qui a eu lieu en période de pandémie, les États ont élargi les options de vote. La popularité croissante de cette méthode s'est poursuivie depuis lors, notamment auprès des personnes âgées, comme Antonetta Nordberg, accompagnée de sa fille Kimberly.
En tant que citoyenne américaine naturalisée depuis de nombreuses années, je viens voter. C'est mon devoir de voter et c'est un honneur de voter. Je suis ici avec ma fille Kim.
Oui, nous sommes ici pour voter tôt parce que le processus est beaucoup plus facile et c'est comme vous le feriez n'importe quel jour de scrutin ordinaire. Mais encore une fois, c'est un droit très important que nous avons tous ici en Amérique de voter pour qui va nous représenter au niveau du comté, de la ville et au niveau national pour notre président.
La Virginie, la Louisiane et le Tennessee font partie des États où les électeurs votent volontiers avant le jour de l'élection. Patricia Young est ravie d'avoir pu voter avant le 5 novembre pour ne pas être bousculée.
Je suis venu ici aujourd'hui pour voter par anticipation parce que j'ai eu un accident. J'ai un bras cassé et je voulais donc venir parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, comme ce serait le cas le jour des élections. J'étais donc plus à l'aise et les gens ici sont très amicaux et coopératifs. Et cela n'a pas pris beaucoup de temps. C'est très important de voter et d'exercer le droit qui nous est donné.
Les électeurs se voient généralement abordés par des volontaires de partis politiques qui ne doivent pas dépasser une ligne de démarcation à environ 10 mètres de l'entrée. Jeff Porter, militant du Parti démocrate depuis 1968, a vu défiler plus de 700 électeurs dans la journée.
Nous faisons cela depuis le 20 septembre, car nous avons environ 45 jours de vote par anticipation dans l'État de Virginie. Nous donnerons certainement du travail à des volontaires le jour de l'élection, le 5 novembre.
Ce jour-là, les volontaires du Parti républicain ont refusé de donner une interview à VOA Afrique. Un seul point de convergence sur les petits guides des deux parties, l'approbation d'une question référendaire sur l'exemption de taxes pour les veuves ou veufs de militaires en Virginie.
Le reste de l'actualité en Afrique et dans le monde sur VOA Afrique. Le nouveau président du Botswana, Duma Boko, a pris fonction ce lundi. L'avocat de 54 ans a salué, lors d'une cérémonie de passation de pouvoir avec son prédécesseur, une transition démocratique exemplaire à l'issue des élections qui ont détrôné le parti au pouvoir depuis 58 ans. Aux côtés de son prédécesseur Modgwisi Masisi, 63 ans, il a dit endosser avec humilité les responsabilités et attentes considérables qui sont en jeu dans le pays à l'économie en berne. M. Masisi a de son côté souligné que la démocratie n'était pas une abstraction. Le principal opposant mozambicain, Venancio Mondlane, a affirmé avoir été victime d'une tentative d'assassinat en Afrique du Sud, où il avait trouvé refuge après des élections dont il conteste les résultats. Selon les résultats officiels annoncés le 24 octobre, le parti au pouvoir au Mozambique, depuis 49 ans, le Frelimo, a remporté les élections présidentielles et parlementaires du 9 octobre. Venancio Mondlane, qui dit avoir quitté l'Afrique du Sud, a réitéré son appel à 7 jours de grève, une paralysie totale, devant aboutir à une grande marche dans la capitale Maputo jeudi, qu'il annonce comme le jour de la libération du pays. Au Soudan, le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, en guerre contre les paramilitaires, a annoncé un remaniement ministériel avec le remplacement de 4 ministres, dont ceux des affaires étrangères et des médias. La guerre civile qui a débuté en avril 2023 oppose les militaires aux paramilitaires des forces de soutien rapide. Sous le commandement de son ancien adjoint, Mohamed Abdan Daglo, le conseil n'a pas révélé les raisons de ce remaniement, mais il coïncide avec une montée de la violence dans l'état d'Al-Jazira, au sud de la capitale Khartoum et dans la vaste région du Darfour Nord à l'extrême ouest du Soudan, à la frontière avec le Tchad. Le président du Tchad, Mahamat Idriss Déby, a menacé de retirer son pays de la force de sécurité multinationale qui, selon lui, a échoué dans sa mission de lutte contre les djihadistes dans la région du lac Tchad. Le chef de l'État tchadien a fait cette déclaration dimanche lors d'une visite dans la région. Une quarantaine de soldats tchadiens ont été tués lors d'une attaque menée dans cette région par des militants présumés de Boko Haram à la fin du mois d'octobre. Le travail de la force conjointe a été compliqué par des divisions et un manque de coopération. Mais le retrait du Tchad représenterait un coup dur car ses forces armées sont parmi les plus respectées de la région.
Un zeste d'adrénaline, une sacrée dose d'organisation et une passion à partager au public libre-villois. Voilà
des principaux. La suite des nouvelles, en allant maintenant hors du continent, Israël a informé officiellement l'ONU ce lundi de l'interdiction de l'UNRWA, une agence onusienne considérée comme la colonne vertébrale de l'aide aux réfugiés dans les territoires palestiniens occupés en pleine guerre dans la bande de Gaza plongée dans un désastre humanitaire. Dans le même temps, l'armée israélienne a mené une nouvelle frappe à Gaza et au Liban où elle combat respectivement le Hamas et le Hezbollah, deux mouvements islamistes pro-islamiens iranien qu'elle cherche à mettre hors d'état de nuit. L'armée israélienne a par ailleurs annoncé l'élimination au sud Liban de Riyad Rida Gwazani, un commandant de la force Radouane, l'unité d'élite du Hezbollah. Et l'armée espagnole poursuivait ce lundi son déploiement dans la région de Valence, frappée par des inondations dévastatrices, alors que le mécontentement populaire grandit quant à la réponse des autorités à la catastrophe qui a fait au moins 217 morts. Quelques 5000 soldats ont été dépêchés au cours du week-end pour aider à distribuer nourriture et eau, déblayer les rues et protéger les magasins et les biens des pillards. Et 2500 autres devraient rejoindre dès ce lundi, a précisé la ministre de la Défense. Et la légende de la musique américaine, Quincy Jones, ancien producteur de Michael Jackson et de Frank Sinatra, est décédé à l'âge de 91 ans. Quincy Jones a aussi su s'imposer à Hollywood, où il a composé des musiques de films et d'émissions de télévision. Sans transition, nous passons au dossier du jour, en commençant par le Ghana, pour parler de l'exploitation sauvage de l'or, une exploitation qui explose et empoisonne la population et la nature. Les précisions de John Lindon.
Un zeste d'adrénaline, une sacrée dose d'organisation et une passion à partager au public libre-villois. Voilà les principaux ingrédients qui, trois jours durant, viennent de réunir des centaines de participants autour du Festival des sports extrêmes à Libreville.
Nous, on a ramené 5 ambassadeurs, 2 rollers, 2 skateboards et une trottinette pour des petites démonstrations qui ont lieu 2 fois dans la journée.
Si les professionnels venus d'Europe étaient évidemment les stars de l'événement, les amateurs locaux se sont imposés en montrant de quoi ils sont capables.
Vous remarquez aujourd'hui, je n'ai carrément plus de voix tellement j'ai crié dans le jargon, on dit j'ai hypé tout le monde. Donc j'ai tellement crié que je n'ai plus de voix. Le spectacle était au rendez-vous et c'était vraiment magnifique.
Le FIS se définit comme un événement populaire et un véritable berceau des talents. Il y a 14 ans est médaillé d'or dans la catégorie junior de Skiller Skit.
Je pensais pas forcément être premier, vu qu'il y a mon concurrent, mon rival, D-Machine, Luc, Alexandre, qui est assez fort. Ça fait jouer de très peu de points d'écart pour pouvoir gagner. Mais sinon, je suis quand même content d'avoir gagné.
Ce rendez-vous incontournable des sports urbains a fait sensation auprès du public gabonais qui en redemande.
C'est juste incroyable de voir ce qu'on est capable de faire avec un premier espace. Donc on se dit que s'il y a beaucoup plus d'espace comme celui-là, ça peut multiplier ce type d'action et ce sera à féliciter. Un sport qui a une portée mondiale et qui est aussi représenté aux Jeux Olympiques. Je pense qu'il y a quand même matière à ce qu'un sport éligé aux Jeux Olympiques soit pratiqué au Gabon.
Pour la direction de la façade maritime du champ triomphal de Libreville, promotrice du FIS, cette seconde édition a atteint ses objectifs.
Le FIS District Libreville avait pour premier objectif de permettre à la jeunesse gabonaise de pouvoir participer à un événement mondial, puisque le FIS est un des plus grands festivals de sport urbain au monde. On le retrouve en France, on le retrouve au Moyen-Orient et également en Asie. Et permettre également donc, du coup, à des sportifs internationaux de pouvoir former, encadrer et permettre le concours de skateurs et des riders gabonais.
En deux éditions du Festival international des sports extrêmes, le Gabon peut désormais compter sur environ 200 jeunes initiés à la pratique des sports urbains. Ismaël Obianze pour VOA Afrique, Libreville.
Voilà, nous allons retourner au Ghana pour parler d'exploitation sauvage de l'or, une exploitation qui explose et empoisonne les populations et la nature. John Lindon.
Dans une mine d'or non agréée du Ghana, des hommes vêtus de t-shirts, de shorts et de bottes en caoutchouc pataugent dans des mares d'eau boueuse et chargées de mercure. Ils extraient des pierres à main nue et actionnent une vanne branlante à la recherche du précieux minerai. L'un d'eux, qui préfère garder l'anonymat, justifie pourquoi il s'est engagé.
Avant de commencer, je n'avais rien. Alors je me suis dit non, je dois aussi entrer et obtenir quelque chose. Lorsque j'ai commencé à extraire de l'or, je gagnais environ 60 000 cédis. Alors je me suis lancé, j'ai pris des garçons et nous avons commencé à faire le galamsey.
La mine délabrée fait partie d'une activité en plein essor qui génère des moyens de subsistance et des sources de revenus informels pour l'économie ghanéenne, même si elle nuit à la santé des mineurs, pollue les cours d'eau, détruit les forêts, les plantations de cacao et alimente la criminalité.
Potentiellement, 70 à 80% des mineurs d'or n'ont pas de licence. Il s'agit donc d'une industrie très informelle, ce qui facilite l'implication du crime organisé. Mais c'est aussi à cause de l'éloignement des mines. Beaucoup d'entre elles se trouvent à la frontière internationale, en particulier dans le nord. Elles se trouvent donc dans des endroits inaccessibles. C'est facile. Il y a moins de gouvernement, il y a moins de surveillance de la part du gouvernement, il y a moins de patrouilles. L'emplacement des mines est donc pratique pour le crime organisé, pour les groupes criminels organisés.
L'industrie de l'extraction d'or sans licence, connue au Ghana sous le nom de galamsey, s'est développée à un rythme effréné cette année, les prix mondiaux de l'or ayant augmenté de près de 30%, ce qui a attiré de nouveaux entrants. Pour certains, la pratique de galamsey doit cesser.
Le galamsey doit cesser. Tous nos plans d'eau ont été pollués. Pendant combien de temps allez-vous rester assis à regarder tous ces politiciens nous faire subir cela? Non, nous ne pouvons pas. Ils disent que la vie, c'est l'eau, mais que nos masses d'eau ont été polluées. Comment pouvons-nous vivre longtemps? Ce que nous disons, c'est qu'il faut arrêter le galamsey parce que nous voulons vivre longtemps. Nous ne voulons pas tomber malade, nous ne voulons pas aller à l'hôpital, nous ne voulons pas avoir de problèmes rénaux. Nous voulons vivre longtemps, nous voulons profiter de la vie, même si nous n'avons pas d'argent. Nous voulons profiter de la vie. Nous disons arrêter le galamsey maintenant ou jamais.
Environ 40% de la production totale d'or du Ghana provient de petites mines par opposition aux concessions exploitées par des multinationales. Les petites mines ont produit 1,2 million d'onces d'or au cours des 7 premiers mois de l'année, soit plus que pendant toute l'année 2023, selon les données du régulateur du secteur minier ghanéen. Les dangers du Galamsey sont nombreux. Des dizaines de mineurs ont été tués dans l'effondrement depuis ces dernières années, selon les médias et les groupes de défense et des droits de l'homme, tandis que les hôpitaux et les centres de santé font état d'un nombre élevé de décès prématurés dus à des maladies pulmonaires chez les mineurs et les habitants des villes et villages situés à proximité des mines.
Vous suivez VOA Afrique, place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Ligue des champions, affiche Real Milan et Inter Arsenal.
Les deux clubs les plus titrés de la Ligue des champions, le Real et l'AS Milan, s'affrontent mardi à Madrid dans le grand choc de la quatrième journée de la phase de Ligue, suivi par un alléchant Inter-Arsenal le mercredi. Impossible de faire mieux pour l'histoire, Real Milan, c'est le match 22 coupe aux grandes oreilles, 15 pour la Maison Blanche et 7 pour les Rossoneri, leur lointain dauphin au palmarès. Mais les deux monstres sacrés ne sont pas au mieux. Jean-Roger.
NBA, Atlanta et Dallas se baladent.
Atlanta et Dallas ont écrasé leur rencontre face à la Nouvelle-Orléans et à Orlando lors d'une soirée NBA limitée à 3 matchs dimanche. Dans un match sans grande intensité, les Atlanta Hawks ont facilement dominé les Pelicans de la Nouvelle-Orléans, 126-111, privés à la dernière minute du puissant Zion Williamson pour une raideur à un muscle ischio-jambier. Autre défaite à domicile, les Brooklyn Nets ont été surpris par les Detroit Pistons 106-92. Les Dallas Mavericks ont facilement battu le Magic d'Orlando 108-85. Avec un seul magicien sur le terrain, le Slovène Luka Doncic pour un bilan de 4 victoires et 2 défaites. Doncic qui avait mené les Texans. À la finale NBA au printemps, a fait la différence en première période, 25 points pour finir avec 32 points, 9 rebonds et 7 passes à 11 sur 22 au tir.
Marathon de New York, Cheptegei et Nadjie, vainqueur surprise.
La Kenyane Sheila Cheptegei et le Néerlandais Abdi Nagei ont créé de petites surprises en remportant le marathon de New York et dimanche. C'est leur premier succès majeur à 33 et 35 ans. Cheptegei s'est imposé en 2h24 minutes 35 secondes après avoir réussi à se débarrasser sur une dernière accélération de sa compatriote Hélène Obiri, 2h24 minutes 49 secondes, vainqueur à New York en 2023 et médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Paris cet été. Cheptegei avait pris la sixième place du marathon de Londres au printemps après avoir brillé l'an passé à Berlin avec une deuxième place en 2h17 minutes 49 secondes. Nagui, vice-champion olympique à Tokyo en 2021 derrière Eliud Kipchoge, a lui aussi décroché sa première grande victoire après avoir terminé troisième à New York en 2022. En 2h07 minutes 39 secondes, Nagui a devancé trois anciens vainqueurs à New York et les Kenyans Evan Chebet, 2h07 minutes 45 secondes, et Albert Korir, 2h08 minutes, et le champion olympique éthiopien Tamirat Tola, 2h08 minutes 12 secondes. Né en 1989 en Somalie, Nagui avait fui la guerre civile avec ses frères pour les Pays-Bas en 1996. Il est le premier Européen à s'imposer à New York chez les hommes depuis l'Italien Giacomo Leone en 1996. Et avant de nous quitter, Jean-Roger, on peut parler du cyclisme avec la 35e édition du Tour international du Burkina Faso qui s'est achevée hier dimanche. Alors, après 10 étapes de course, le maillot jaune est revenu au Marocain, Mohsin El Kouradji. C'est ce que nous a rapporté notre correspondant Kader Traoré. Et c'est tout pour les sports de ce soir, Jean-Roger.
Page des sports VOA Afrique, signé Eric Manirakiza. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24.